Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Parmi tous les tabous que renferme l'inceste, il y en a un qui malheureusement perdure dans le temps. Nous avons connu, fort heureusement, le hashtag MeTooInceste sur les réseaux qui a permis la libération de la parole de bon nombre de survivants de cet enfer. Malheureusement, parmi tous les tabous que renferme cet enfer, il y en a un qui perdure dans le temps. Je veux ici parler de l'inceste maternel. J'ai tenté de faire des recherches afin de trouver des statistiques fiables au sujet donc de l'inceste maternel, mais plus largement au sujet de l'inceste féminin. Et peut-être ici vais-je enfoncer une porte ouverte en vous disant qu'il n'y a pas aujourd'hui, en 2023, au moment où je pose ces mots sur Lumineuse Podcast, de réelles statistiques fiables au sujet de l'inceste féminin. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à entendre l'histoire de Ninon. Ninon est une jeune femme de 23 ans qui a fait une sortie d'amnésie post-traumatique il y a tout juste un an. Ninon est donc au commencement de son parcours du combattant et elle a accepté de venir sur Lumineuse afin de nous partager son histoire. Vous allez découvrir au sein de cet épisode son propre processus de sortie d'amnésie. Du premier flash au premier grand souvenir, avec un premier bourreau masculin, avant que sa boîte aux secrets ne s'ouvre un peu plus et lui libère un premier souvenir d'inceste maternel. Il est peut-être temps aujourd'hui que vous, victimes d'inceste au féminin, preniez un peu plus la parole, afin de faire entendre au monde que le problème de l'inceste, que l'abomination qui est l'inceste, va bien au-delà de la simple maltraitance des hommes sur les femmes et que des femmes bourreaux existent et certainement beaucoup plus qu'on a envie de l'envisager. Malheureusement, ici, il s'agit d'une réalité. Le bourreau peut prendre tous les visages, celui d'un père, d'un grand-père, d'un oncle, d'un voisin, mais également celui d'une mère, d'une sœur, d'une tante, d'une grand-mère. Si toi qui m'écoutes, tu as vécu ce type d'enfer-là, sache que je te vois. Sache que je sais à quel point ta souffrance est grande et que tu es tout autant légitime à prendre la parole que celles et ceux qui ont été maltraités par des hommes. Je vous demanderai énormément de bienveillance à l'écoute des mots de Ninon qui, avec beaucoup, beaucoup de courage, a accepté de nous livrer son témoignage. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Ninon.
Bonjour Samara.
Je suis très heureuse de te recevoir sur Lumineuse. Merci infiniment de m'offrir ta confiance et de venir nous déposer ton histoire aujourd'hui sur Lumineuse.
Oui, merci beaucoup à toi de me recevoir et de prendre le temps de m'écouter.
Alors bon, juste pour les petites péripéties, c'est la deuxième fois qu'on tente d'enregistrer cet épisode, mais je suis sûre que cette fois sera la bonne.
Mais oui, ça va aller.
Ouais, j'en suis convaincue. Alors Ninon, pour commencer, est-ce que tu accepterais de te présenter un peu aux auditeurs et puis aussi peut-être tout de suite nous poser un peu le décor du type de famille dans laquelle tu as grandi étant enfant?
Oui, alors j'ai 23 ans. J'ai grandi dans une famille avec ma maman et mon papa et j'ai une petite sœur qui est de 3 ans, ma cadette. On a grandi dans une famille banale, si je puis dire. On a beaucoup fréquenté nos grands-parents étant enfant. J'ai toujours été une très bonne élève et j'ai fait énormément de sport étant enfant.
Toi, Ninon, ça fait un peu plus d'un an à présent que tu as fait une sortie d'amnésie post-traumatique.
Ouais. Tout à fait.
Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais te poser une question, à savoir, quelle est la différence pour toi, là, factuellement, dans ta vie, dans ton quotidien, entre avant ta sortie d'amnésie et aujourd'hui, au moment où tu me parles?
Je dirais qu'avant ma sortie d'amnésie, j'avais aucun souvenir de mon enfance. C'est-à-dire que avant mes 12-13 ans, j'avais aucun souvenir de trou noir, vraiment. Et maintenant, j'ai récupéré quelques souvenirs, mais vraiment très diffus, quoi. Et factuellement, qu'est-ce que ça a changé? Ben, mon corps est devenu extrêmement douloureux, si je puis dire, quoi. J'avais beaucoup de douleurs chroniques, de stress, de crises d'angoisse que j'avais pas avant ma sortie d'amnésie, quoi. Mais j'ai aussi des gros problèmes de mémoire. C'est difficile pour moi de retenir des dates, de me projeter dans le temps, de m'organiser au niveau du temps, de respecter des deadlines. C'est vraiment hyper dur, quoi.
Ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on rencontre toutes et tous, quoi. Il n'y a rien d'anormal, en tout cas, dans cela, même si, évidemment, c'est extrêmement handicapant au quotidien. Oui.
Ouais. Après, quelque chose qui n'a pas changé vraiment, c'est que j'ai toujours eu des troubles alimentaires, même enfance, et ben je continue à en avoir. Ça, c'est vraiment la continuité, quoi.
Quel autre type de trouble avais-tu au cours de ton enfance?
Je dormais très mal et enfin, je réveillais souvent mes parents la nuit parce que je faisais des cauchemars. Et c'est un truc qui m'est resté, je suis vraiment insomniaque. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre, mais après, j'ai envie de dire, mon corps s'est habitué. C'est triste à dire, mais c'est vrai.
Tu parles de quoi? Du manque de sommeil?
Ouais. Et de tous les impacts que ça a sur, ben, sur le travail, ben, enfin, je suis tout le temps fatiguée, j'ai du mal à me concentrer. Hein, quand vraiment je fais une grosse crise, j'appelle ça, que ça dure une semaine et que je dors vraiment pas, ben, c'est vraiment, vraiment compliqué au travail, mais le corps s'est habitué en fait.
T'as un suivi aujourd'hui avec un thérapeute, un psy ou autre?
Oui, j'ai un suivi en EMDR qui m'aide bien, mais qui me déclenche beaucoup.
Beaucoup, le MDR, ça déclenche énormément.
Ouais, mais ça m'aide quand même.
Donc, tu as une petite sœur.
Oui.
Elle vit toujours chez tes parents?
Non, elle vit pas chez mes parents, elle a son travail, mais elle les voit régulièrement le week-end et enfin, elle est toujours, elle, très en lien avec eux et toujours sous emprise, quoi.
Elle sait pour toi?
Non.
Tu en as parlé à quelqu'un dans ton entourage?
Dans mon entourage proche, physiquement, oui, j'en ai parlé à mon petit ami, à quelques amis, mais au niveau de la famille, pas du tout. Enfin, en tout cas, maintenant. C'est-à-dire que
Oui, pour l'instant, tu n'as pas encore parlé.
enfin, j'ai parlé, j'ai dit les choses, mais je ne suis pas revenue vers eux en tant qu'adulte pour leur dire, bon, bah, maintenant, je sais ou je me souviens, enfin, et ce n'est pas acceptable. Enfin, cette démarche-là, je ne l'ai pas encore faite.
Chaque chose en son temps.
Oui.
Encore une fois, il n'y a rien d'anormal. Est-ce que tu accepterais, Ninon, de nous confier qui était ton ou tes bourreaux?
Oui, moi j'ai été agressée par ma mère et par mon grand-père du côté de ma maman.
Avant ta sortie d'amnésie, quel rapport entretenais-tu avec ta mère?
Ça a toujours été conflictuel. Ma maman est quelqu'un qui punit beaucoup par le silence. En fait, et bah, c'est quelque chose qu'on a tous subi dans la famille, enfin, mon père, ma sœur et moi, du coup. Et ben, elle était très critique vis-à-vis de moi, enfin, ouais. Et en fait, j'ai toujours eu l'impression que ma sœur était la préférée. C'est qu'une impression, parce qu'en réalité, pas vraiment. Elle aussi a subi la violence verbale de ma mère. C'est sûr. Mais oui, on avait toujours eu des liens très compliqués. J'ai d'ailleurs beaucoup dit, quand j'étais à l'école, à mes amis, oui, avec mes parents, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui est nouveau pour mon cercle amical, quoi.
Et avec ton père, quel type de rapport entretenais-tu avant ta sortie d'amnésie?
On a toujours été très complices. Il était très sportif et moi aussi, du coup, on faisait beaucoup de sport ensemble. J'ai vraiment eu cette adoration en fait pour mon papa. Vraiment, je l'ai mis sur un piédestal pendant longtemps, quoi. Maintenant, plus, mais à l'époque, oui.
Pourquoi maintenant plus?
Ben, parce que maintenant, je me rends compte que lui aussi était là pendant ses agressions et pendant toutes ces années. Et finalement, il était là et il n'a rien dit, il n'a rien fait. Et donc.
C'est-à-dire qu'il était physiquement présent dans la pièce lorsque les agressions arrivaient.
Ou parfois oui, pas toujours, mais des fois oui, parce que ça pouvait être très bien arrivé au repas de famille, donc vraiment devant toute l'assemblée. Donc oui, enfin il était là aussi, et donc ben je considère qu'il était quand même comme en fait je considère qu'il est quand même responsable quelque part.
Dans sa non-action, dans sa non-prise de parole ou d'acte.
Oui, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé avec ma psy en fait en discutant. En fait elle me disait que c'était très très grave de pas qu'un enfant qui subit de la violence ne soit pas protégé ou défendu par quelqu'un, elle me disait qu'en fait c'était vraiment très très grave pour l'enfant.
Ça l'est. Ça l'est d'autant plus lorsque les adultes qui ne bougent pas sont les parents. Et ça l'est d'autant plus lorsque le ou les bourreaux sont les parents, donc la figure d'attachement principale et ceux-là même qui sont censés te défendre contre vents et marées.
Oui, c'est
Oui.
ça.
Mais du coup, tu n'as pas encore parlé auprès de ta famille, de la tribu. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu les vois? Est-ce que tu les côtoies encore?
J'ai vraiment pris mes distances avec eux. Physiquement, je vis à l'autre bout de la France, donc je les côtoie plus tous les jours, mais il m'arrive de temps en temps de recevoir des SMS ou de devoir les appeler, quoi. Mais j'ai vraiment mis une grande distance, même émotionnelle. Quand on discute, on parle de choses enfin, qui peut impliquer émotionnellement, quoi.
Est-ce que je peux te demander, même si encore une fois il n'y a rien d'anormal, hein, c'est plus pour comprendre le cheminement. Qu'est-ce que tu attends pour parler?
Franchement, je ne sais pas ce que j'attends pour parler, mais par contre, je me suis déjà posé la question de qu'est-ce que j'attends de ma prise de parole. Et en fait, je crois que j'ai des attentes qui sont complètement irréalistes parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me répare, qu'on me console, qu'on me dise que c'est... Enfin, et en fait, ça n'arrivera jamais parce que mes parents, ils sont pas en capacité de reconnaître ce qu'ils ont fait. Et de prendre leurs responsabilités et de se dire ben maintenant on a un enfant et il faut le protéger. Enfin, donc je ne sais pas ce que j'attends pour parler. Je ne sais pas si j'attends qu'on me donne l'autorisation de parler puisqu'on me l'a enfin, on me l'a confisqué, quoi. Mais je ne sais pas. Je sais pas ce que j'attends.
Peut-être que tu attends la perte de l'illusion de ce quelque chose que tu attends et qui n'arrivera pas.
Oui, pourtant, je travaille vraiment à casser ce lien d'emprise. Mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, je continue de me battre avec, je régresse, je continue de me battre avec, et c'est vraiment un chemin infini, quoi. Ce que j'ai déjà fait, je peux tout refaire encore une fois, encore une troisième fois. Enfin, j'ai vraiment l'impression que je me débats dans la jungle, je coupe les lianes, je le coupe, et puis ça se raccroche toujours, quoi.
Bah, d'autant plus en étant toujours en contact avec eux. C'est une évidence.
Oui.
Alors, au niveau de ta sortie d'amnésie, est-ce que tu acceptes de nous partager qu'est-ce qui t'est revenu en premier? Je ne parle pas forcément du souvenir factuel, ça, mais plus quels ont été les symptômes et puis comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu de l'aide? Comment ça s'est passé pour toi?
Pour moi, ça a été un processus, c'est-à-dire que c'est pas arrivé en une fois, ça a duré sur 6 mois. Ouais, peut-être même un an. J'ai peut-être pas encore fini ma sortie d'amnésie. Je pense qu'il y a toujours des souvenirs qui vont comment me rattraper, quoi. Mais en fait, ce qui a fissuré mon amnésie, c'est une phrase qu'une amie a dite dans une conversation qu'on avait quand on parlait de nos familles. Elle m'a dit ces mots qui sont très crus. Elle m'a dit que son père avait arrêté de la désirer sexuellement. Et donc cette phrase-là, elle a fissuré vraiment quelque chose en moi. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des cauchemars, des sensations de mains sur le corps. des crises de panique, mais inexpliquées, enfin, vraiment des gros, gros symptômes, quoi. Et puis, quelques mois après, je pars pour un stage et je me fais un ami qui me raconte ce qui, lui est arrivé. Et donc, il a été violé sur son lieu de travail. Et donc, à ce moment-là, ben, en fait, je sais que c'est ça. Et donc, c'est la première fois que je dis que... En fait, j'ai pas les mots. Et du coup, je dis juste moi aussi. Ensuite me reviennent les premiers souvenirs du viol que j'ai subi ma première année universitaire. Donc j'ai été droguée par un ami et donc voilà. Et donc à ce moment-là, je sombre dans une profonde dépression et je quitte mes études et donc je suis obligée de revenir chez mes parents. Et donc là, c'est terrible. Vraiment, je perds pied. Ça a été très très dur. Finalement, j'ai repris d'autres études à l'autre bout de la France. Et là, vraiment, ça allait pas du tout. Donc, je me suis fait aider à ce moment-là. J'ai été chez une thérapeute et je pense que c'est ça qui m'a. À ce moment-là, je suis devenue aussi indépendante financièrement. C'est ça qui m'a permis d'avoir un suivi psy. Et donc, ben, je me suis fait aider parce que c'était vraiment très très envahissant et je perds pied dans ma vie de tous les jours, quoi.
J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière parce que c'est important. Parce que c'est vrai que la dernière fois, lors du premier test d'enregistrement, on en avait déjà parlé. Donc, mais là,
Oui.
ça vient de me faire tilt, Sanara, attention. Pour que les auditeurs, les auditrices, quand même, enfin, moi, je me mets à leur place là et je me serais questionnée. Cette amie qui t'a dit, mon père a arrêté de me désirer sexuellement, donc subissait l'inceste avec son père.
Elle me l'a cl jamais clairement dit. Mais c'est ce que moi j'en ai déduit.
C'est tout de même assez explicite.
Ouais. Et d'autant plus que cette amie, elle va très mal. Et encore aujourd'hui, elle va très mal. Donc, en fait, il y a des indices.
Tu sais si elle est aidée, si elle est suivie?
Oui, elle a un suivi psy, oui. Assez lourd d'ailleurs.
On lui souhaite de s'en sortir.
Oui.
Oui. Donc, il y a eu trois éléments déclencheurs, quelque part, successifs. Il y a eu cet ami qui a vécu cette abomination qui te le partage. Et puis, il y a ton ami qui te partage son abomination à lui, quelque temps plus tard. Et puis, troisièmement, il y a cette agression absolument terrible que tu as subie de la part de quelqu'un que tu considérais être ton ami, en tout cas à l'époque.
Oui.
Et là, tu te retrouves à rentrer chez ton bourreau.
Ouais. Et vraiment, ce moment-là, c'est vraiment terrible.
Tu es resté combien de temps à cette période chez tes
Je
parents?
suis restée 6 mois, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est énorme.
Ouais.
Néanmoins, au cours de cette période, tu n'avais pas encore de souvenirs. En revanche, il y avait le syndrome de stress post-traumatique qui s'est suractivé, c'est
Ouais,
ça?
c'est ça. À
D'accord.
ce moment-là, je me souvenais pas du tout de l'inceste. C'est vraiment, enfin, j'avais des souvenirs très, c'est vraiment encore aujourd'hui très, très flou ce qui s'est passé du coup à l'université. Mais à ce moment-là, ouais, je savais. Enfin, je savais sans savoir, c'est-à-dire que c'était présent en arrière-plan, mais je pense que consciemment, je pouvais pas mettre le mot dessus et me rendre compte de ce que c'était vraiment. Parce que c'était trop
Là, tu parles
difficile.
de l'agression que tu as subie par...
Oui, parce qu'après, enfin, les souvenirs d'inceste, ils sont revenus après, pendant la thérapie, là où vraiment je me suis sentie protégée, où j'ai commencé à construire mon cocon, à avoir ma maison, enfin, à vraiment me sentir en
Ton
sécurité.
indépendance.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quand même fou parce que, au travers de l'indépendance, il y a aussi, eh bien, l'indépendance financière.
Ouais,
Non,
ça a été très important pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivée à partir de chez moi. Quand je suis partie de chez moi, j'ai dit absolument, il me faut un travail, il faut que je puisse. Que je puisse être indépendante, quoi. C'était très, très important pour moi. Et aujourd'hui encore.
pense que ça le sera toute ta vie.
Je crois.
Ensuite, notre indépendance, on s'y accroche, mais alors, il faut voir, quoi. Ouais.
Oui.
Mais ça, c'est quelque chose de positif.
Oui, absolument. Mais du coup, par rapport à cette indépendance, ben, j'ai tendance à être vraiment hyper indépendante et du coup, c'est difficile de créer des liens, forcément, puisque je mets facilement beaucoup de distance, quoi, pour pas justement m'attacher et me retrouver dans une situation qui pourrait me faire du mal.
C'est normal, mais tu sais, Ninon, c'est encore très récent tout ça.
Oui, bien sûr, j'ai bien conscience que c'est encore très très récent.
Même ton mode d'attachement, etc., tout va évoluer avec le temps.
Oui.
Vraiment. Donc, à la suite, tu arrives à partir de chez tes parents, tu débutes cette thérapie qui se trouve être extrêmement bénéfique pour toi. Est-ce que tu te souviens à quel moment le premier souvenir est revenu? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Est-ce que tu pourrais réussir à nous décrire cet instant?
Le premier souvenir qui me revient, c'était le soir. J'étais en train de somnoler, pas vraiment dormir. Et en fait, j'ai eu cette impression qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur mon lit. Et j'ai déclenché une énorme crise d'angoisse. Et à ce moment-là, bah, du coup, j'ai eu vraiment le premier souvenir d'une agression avec mon grand-père. Mais enfin, c'est pas du tout dans l'ordre de l'ordre où ça s'est passé, dans lequel je m'en suis souvenue. C'est même complètement mélangé, en fait.
Ah mais ça c'est normal. C'est absolument normal que ça arrive dans le désordre et le flou absolu.
Oui.
Finalement, ça a débuté par une sensation de quelqu'un qui s'assoit sur ton lit. Ça te déclenche de l'angoisse. Et ensuite, le souvenir revient dans le désordre, mais il revient.
Ouais, je pourrais pas te dire ce que je faisais cette journée-là, puisque je travaillais, j'avais mon premier job étudiant, je crois, à ce moment-là, qui était assez monotone, donc je faisais la même chose tous les jours, quoi. Mais je pourrais pas dire ce que je faisais ce jour-là, je me souviens plus.
En revanche, tu étais dans ton lit, tu somnolais, tu étais donc dans un état modifié de conscience.
Ouais.
Lorsque ce premier souvenir te revient par rapport à ton grand-père, il n'est pour l'instant pas encore question du tout de l'inceste maternel. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la première chose qui te revient, c'est lui,
Ouais,
c'est pas elle.
ouais.
Comment ça s'est passé dans les jours qui ont suivi la reviviscence de ce premier souvenir,
Et
Ninon?
bah, c'était très très dur. Je me souviens que ce soir-là, il était très tard, il devait être vers minuit. Et ben, j'ai appelé un ami parce que vraiment, je ne savais plus quoi faire, quoi. J'étais dans un état vraiment catastrophique. Donc, j'ai appelé un ami. Je le remercie d'ailleurs d'avoir décroché son téléphone. Et donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je lui ai dit, je comprends pas ce qui m'arrive. Je lui ai raconté ce que je m'étais souvenu en fait. Et en fait, le fait qu'il soit là sans vraiment être là, bah, ça m'a quand même aidée parce que j'avais quelqu'un à qui parler et je ne restais pas complètement seule avec ça.
Tu vois que tu crées des liens.
Oui, quand
Il y a
même.
des amis qui te répondent à minuit. Combien de temps est-ce que... Alors ça, c'est vraiment pas sûr que tu t'en souviennes, mais c'est important que je te pose la question tout de même. Combien de temps entre la reviviscence de ce premier souvenir et l'arrivée d'autres souvenirs?
Je dirais qu'il s'est passé peut-être un bon mois, presque deux, à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, j'avais toujours ma thérapie, donc j'avais ma psy qui m'a aidée à ce moment-là aussi à gérer mes émotions. Et elle m'a dit, cette phrase qui m'a beaucoup aidée, que en gros, ce qui me revenait, ça me revenait parce que j'étais capable de le voir aussi. Et bon, c'est hyper dur parce qu'on a l'impression que le monde s'écroule et que nous, on va mourir, quoi. Mais elle avait raison.
Oui, elle avait raison. Quand ça nous revient, c'est qu'on est prêt à encaisser, même si effectivement, on est en train de littéralement crever de l'intérieur.
Ouais.
Ouais. Lorsque ça te revient, donc l'agression de ton grand-père, les souvenirs qui sont arrivés un mois plus tard, est-ce que il s'agissait encore de cet individu, de ce bourreau-là, ou est-ce que le souvenir d'après, eh bien, tu as compris ou vu qu'il s'agissait par la suite de ta mère.
Oui, le souvenir suivant, c'est ma maman. En fait, j'étais en train de faire du yoga à ce moment-là et je faisais une position qui sollicitait le bassin, je crois, le bébé heureux. Ouais, voilà.
Ah, c'est le bébé heureux, oui.
Mais ça, elle s'appelle vraiment comme ça, cette position. Ah ouais, c'est extrêmement mal
Tu
choisi.
me fais rire. Non, mais on a vraiment des vies extraordinaires. Genre, il faut le souligner quand même. Ah. D'accord.
Et donc à ce moment-là, je me reviens des souvenirs de l'agression de ma maman. Et donc là, bah, c'est terrible. Et je me souviens que la séance suivante où je suis allée chez ma psy, c'était tellement terrible que j'arrivais pas à lui en parler en fait.
C'était coincé dans la gorge.
Ouais, c'était vraiment. Même, enfin, ce qui était difficile, c'est que j'arrivais même pas à formuler ma pensée. J'arrivais pas à réfléchir. C'est comme si j'avais un espèce de brouillard dans la tête. Et ouais, j'arrivais pas à réfléchir, à faire des phrases.
Donc tu as de grandes difficultés pour en parler à ta psy, chose que je comprends absolument. À quel moment parviens-tu enfin à formuler cette phrase terrible?
Eh ben, figure-toi que j'ai pas réussi à dire le mot viol, et pourtant c'est ce qui s'est passé. À aucun moment je lui décris ce qui s'est passé, le contexte, mais à aucun moment j'arrive à prononcer le mot.
À dire le
Ouais.
mot. Tu avais quel âge?
Au moment de l'agression, je dois avoir, c'est difficile à dire. Je dois avoir peut-être 10-12 ans, quelque chose comme ça.
Tu m'as partagé quelque chose bien plus haut dans notre échange, et j'aimerais qu'on revienne dessus maintenant. C'est très important. C'est lorsque tu nous as expliqué que certaines agressions avaient lieu devant la famille, quoi. Donc vraiment comprendre le repas de famille avec du monde. Et ça, c'est quand même assez typique des familles où l'inceste est roi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'agressions qui peuvent avoir lieu au vu et su de tous, mais on passe ça sur. Alors, ça dépend des familles, mais souvent sous le coup de l'humour.
Oh
Ah,
bah
qu'est-ce qu'on se
oui, tout à
marre,
fait.
hein? Ou alors certains, ça c'est du vu aussi. C'est pas de l'humour, mais juste on n'y prête pas attention, on évince la chose comme si cela n'avait absolument jamais eu lieu. Donc toi, au sein de ta tribu, c'était donc l'humour qui était utilisé pour cacher un peu, mais l'horreur de ce qui se produisait, quoi.
Oui, c'est-à-dire que ça faisait rire en fait. Ça faisait rire l'assemblée, et puis si quelqu'un avait l'audace de dire oh mais quand même c'est pas normal, ce qui a dû arriver une ou deux fois, enfin assez rarement, tout de suite c'était mis sur le compte de oh mais tu sais papy, c'est une autre époque, il est comme ça, enfin faut pas chercher, vraiment bon bah c'est pas grave quoi, enfin on passe à autre chose comme si c'était pas important.
En revanche, ta mère, elle te faisait subir ces agressions de manière occultée, cachée.
Oui.
Mais le grand-père, lui, c'était face à tous.
Oui, ma mère m'a agressée une fois, en fait. Et mon grand-père, enfin, que je me souvienne en tout cas, mon grand-père, il m'agressait au repas de famille, mais aussi le soir.
Quand tu dormais chez tes
Ouais.
grands-parents. Aujourd'hui, lui, tu as des contacts avec lui ou peut-être qu'il est mort?
Non, il est toujours vivant. Non, j'ai plus du tout de contact. Ça doit faire peut-être un an que je ne l'ai pas vu.
Ninon, excuse-moi de te poser la question, mais je t'assure, ça me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Et c'est par rapport à ta petite sœur.
Ouais.
Est-ce que tu as souvenir que ta petite sœur ait pu subir la même chose que toi, même au cours des repas de famille, etc.?
Ben, en fait, c'est difficile pour moi d'y penser parce que j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ça, justement, d'être la grande sœur et de pas avoir protégé ma petite sœur. Mais, repas de famille, oui, je pense que c'est arrivé. Après, j'ai vraiment du mal à me souvenir. C'est vraiment très flou. Je ne saurais pas dire si ça lui arrivait aussi.
Tu sais, cette culpabilité dont tu parles, ça c'est quelque chose que je travaille souvent en séance. Parce que très souvent, lorsqu'on est l'aîné de la fratrie, ou du moins, même si on n'est pas l'aîné, mais qu'on est au-dessus d'un petit frère et ou d'une petite sœur qui potentiellement aurait pu subir ou a subi des choses,
Oui.
En tant qu'aîné, on va culpabiliser de ne pas avoir pu défendre, protéger, etc. Néanmoins, c'est important qu'on le dise là, pour toutes celles et ceux qui le vivent, toi aussi, tu n'étais qu'une enfant.
Oui, c'est sûr. Mais même maintenant que je suis adulte, je me dis que bah, elle est encore en contact avec mes parents, en fait. Et donc, elle subit encore l'emprise, enfin, de façon encore plus violente que moi, puisque enfin, moi, je suis toujours un peu en contact avec eux, mais beaucoup moins. Et je me dis qu'elle n'a pas fait tout ce travail sur elle non plus, et que même je le vois quand on discute, elle a vraiment du mal à poser des limites, au travail, avec ses amis, enfin. En fait, je sens vraiment qu'elle est impactée et du coup, je me dis que c'est pas possible d'être aussi impactée dans sa vie de tous les jours sans avoir subi quelque chose, quoi.
Ça te fait souffrir.
Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est dur pour moi.
Je comprends. C'est super dur. C'est super dur, mais c'est pas de ta faute.
Oui.
C'est pas de ta faute, Ninon. T'as un amoureux ou une amoureuse?
Oui, bah, j'ai un amoureux et des fois, j'ai quelques amoureuses.
Ninon, elle est ouverte à tout un tas de perspectives.
Oui.
Ah! Comment ça se passe du coup pour toi au niveau de ton corps, de ton intimité?
c'est difficile. J'ai la chance d'avoir un compagnon avec qui je suis depuis quelques années déjà. Donc, il m'a connue avant ma levée d'amnésie et maintenant. Et donc, en fait, il a suivi tout le processus de. Ça va pas, ah, ça va très mal, ah, ça va très très mal, et ah, je remonte la pente doucement, quoi. Mais du coup, il a vraiment su être à l'écoute et jamais me forcer, quoi. Il m'a
Super.
toujours laissé prendre mon temps, et c'est avec lui que j'ai commencé à réapprivoiser mon corps doucement. Après, c'est pas rose tous les jours, hein. C'est encore compliqué, mais ça va se faire doucement.
En termes de somatisation, est-ce que tu accepterais de nous partager les somatisations dont tu souffres?
Oui, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. C'est le jour où je suis retournée vivre chez mes parents après cette agression, du coup, à l'université. Ce jour-là, j'ai eu une très grosse douleur à l'épaule. Et depuis ce jour-là, elle ne m'a plus jamais quittée. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un indice fort, quoi.
Parce qu'elle est vraiment. La douleur est apparue ce jour-là,
Ouais.
quoi. C'est
J'avais
dingue.
jamais eu de problème d'épaule. Et là, vraiment, ce jour-là, incroyable. Vraiment très, très grosse douleur. Et j'ai fait des tas d'examens, j'ai fait du kiné. Et tout le monde m'a dit, mais non, mais il n'y a rien. Enfin, tout va bien. D'accord, j'ai mal, mais tout va bien, il n'y a pas de souci.
C'est l'épaule gauche ou droite?
Gauche.
T'as essayé l'ostéopathie?
J'ai tout essayé.
Ça t'a pas soulagé?
Non. Non, parce que c'est vraiment des douleurs psychosomatiques, en fait.
Bien sûr, mais parfois ça peut quand même soulager, même temporairement, avec la douleur qui peut revenir plus tard.
Oui, le seul truc qui marche à peu près, c'est le sport. Si je fais du sport, ça se calme et ça devient insupportable. Bon, après, j'ai un travail qui m'aide pas non plus, hein, mais
Tu portes?
non, pas du tout. J'ai une position très pénible. Et du coup, ouais, quand je fais du sport, ça va mieux pendant. Enfin, non, ça va mal quand je recommence le sport. Quand je continue le sport, ça va nickel. Quand je m'arrête, ça recommence.
Ouais, mais ça, c'est parce que c'est
Je
chaud.
sais pas.
Ça, moi, t'inquiète, moi aussi, du sport, je me suis butée au sport. Et généralement, quand t'es bien chaude, t'as plus de douleur. C'est merveilleux, le sport.
Ouais.
Mais alors, derrière, qu'est-ce qu'on morfle?
Ouais. Sinon, en douleur, qu'est-ce que j'ai? J'ai des gros problèmes de mâchoire. Ben, j'ai toujours des troubles alimentaires. Ça s'est jamais passé. Ben, des insomnies. Voilà quoi. Ça se passe de commentaires, tellement c'est terrible.
Ah, les insomnies, c'est un enfer.
Ouais. C'est une méthode de torture, hein, en fait. Donc,
Complètement.
voilà. J'ai une survivante qui me disait. Qu'on pouvait devenir accro au manque de sommeil. Et franchement, je me demande si c'est pas mon cas.
Moi, je pense plus que ta sortie d'amnésie est extrêmement récente et qu'il est normal de vivre des insomnies.
Oui, après, ça a toujours été, hein, même enfant.
T'étais seule dans ta chambre lorsque tu étais petite ou vous étiez ensemble avec ta sœur?
On avait chacune notre chambre.
Là, ça va bientôt être les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu fais pour Noël? Enfin, comment tu gères ça puisque tu n'as pas encore, comme s'il le fallait. Chacun fait bien ce qu'il veut. En tout cas, tu n'as pas coupé les ponts avec ta famille. Et donc, généralement, les fêtes de fin d'année, ben, on les passe en famille.
Ouais. Alors ça, c'est un gros sujet d'angoisse. Je ne sais pas encore comment je vais faire cette année parce que je sais que je travaille pas et ils le savent aussi. Donc, ils vont sûrement me demander de rentrer à la maison pour fêter Noël. Je n'ai pas fêté Noël avec eux l'année dernière. Donc en fait, je ne sais pas encore. Je pense que j'occulte la question pour ne pas y penser.
Oui, mais ça, c'est bien ce que tu crois, parce qu'en arrière-plan, forcément, que le système, lui, il travaille dessus déjà.
Oui. Oui, forcément.
Et après, Ninon, elle se demande pourquoi elle fait des insomnies.
Ah, c'est ça.
Ah!
Mais oui, ça travaille forcément. Non, franchement, je ne sais pas encore comment je vais faire. En tout cas, j'ai pas envie d'y aller, ça c'est sûr.
Je te le conseille pas du tout.
Ouais, je pense que je trouverai un moyen de le fêter dans la famille de mon copain.
Lui, ton copain, du coup, il est au courant, tu lui as tout exprimé, tout expliqué.
Pas tout, il connaît l'histoire dans les grandes lignes, mais après c'est toujours pareil, j'ai vraiment du mal à le formuler. Du coup, ben, dès que j'essaye d'en parler, là ça va, mais dès que j'essaie d'en parler à quelqu'un de proche, ben, j'arrive pas en fait. Donc,
Ne sort pas.
ouais, ça sort pas, c'est difficile. Du coup, il connaît l'histoire dans les grandes lignes, mais enfin, il connaît pas les détails, quoi.
Donc ton grand-père qui était le bourreau était donc le père de ta mère.
Non, c'est pas le père de ma maman, c'est le mari de ma mamie. Elle s'est remariée en fait plus tard.
Ton grand-père biologique, tu ne l'as pas connu.
Jamais, mais j'ai su plus tard que c'était un homme alcoolique et violent.
Donc ce n'est pas le père de ta mère, néanmoins il l'a élevée alors qu'elle n'était qu'une enfant.
Non, pas du tout. Il m'a élevée moi en tant que, enfin, petite fille quoi, mais pas. Non, il n'a jamais été le père de, enfin,
Il
considéré comme le
s'est...
beau-père de ma maman.
Parce que ta mère était déjà âgée lorsqu'il
Ouais.
s'est mis avec la grand-mère. D'accord.
Ouais.
Tu sais, il y a un truc avec l'inceste, et moi, pour moi, c'est une certitude absolue aujourd'hui. C'est que lorsqu'il y a inceste à un niveau, c'est qu'il y a inceste au-dessus. Donc, en partant du principe que ta mère t'a abusé, c'est qu'elle aussi a dû vivre des choses, mais du coup, pas avec cet individu-là, puisqu'il n'existait pas dans sa vie. Lorsqu'elle était enfant. Mais tu vois, il y a quelque chose aussi de l'ordre du choix de ses partenaires amoureux pour. Alors, attention, je suis pas en train de dire que ton grand-père biologique était un abuseur, j'en sais rien, le pauvre, il est dans sa tombe, on le connaît pas. Mais il y a quand même quelque chose de très spécial. Hein. Enfin.
Oui, c'est vrai. Enfin, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose du trauma générationnel parce que toutes les femmes de ma famille, du côté de ma maman, ont subi des choses absolument terribles. Et il y a vraiment quelque chose comme ça qui dégouline depuis, ben, moi, le plus loin que je connais, c'est mon arrière-grand-mère qui a vécu la guerre et qui a été déportée. Ensuite, ma mamie qui s'est mariée avec et qui a eu des enfants avec un homme qui était alcoolique et violent. Et ensuite, ma mère qui, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui se transmet de génération en génération, j'ai l'impression.
Un peu plus haut, Ninon, tu nous parlais donc de l'emprise, donc que tu subissais, que tu subis encore quelque part aujourd'hui de la part de ta mère. Est-ce que tu accepterais de nous partager un peu ce que toi tu nommes emprise et comment ça se manifeste dans ta relation à ta mère?
Ma maman, avec laquelle on a toujours eu des liens, ma mère, avec elle, on a toujours eu des liens assez vraiment dans le tout ou rien. C'est-à-dire que elle pouvait nous faire des cadeaux et nous dire qu'on était les meilleures petites filles au monde. Enfin, je parle pour moi et ma sœur. Pour nous féliciter, on a toujours eu des cadeaux quand on ramenait des bonnes notes à l'école ou quand on avait un diplôme ou enfin. Ou qu'on avait un succès, quoi. Mais par contre, il y avait les deux, comme les deux faces d'une pièce de monnaie, quoi, avec de l'autre côté, ben, des insultes, enfin, pas des insultes, mais des rabaissements et des humiliations, mais toujours en face à face. Jamais, jamais devant tout le monde, en fait. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était caché. Et donc, ça, je pense que même mon père, et ma sœur, enfin, ils n'ont jamais vu ce côté-là de la relation avec ma mère, en fait. Et donc, ça a créé de secret un peu. Après, au niveau de l'emprise.
Attends, excuse-moi Ninon, je te coupe 2 secondes. C'est-à-dire que ta mère avait une manière de te parler, de s'adresser à toi, qui était différente lorsque tu étais seule avec elle, c'est ça?
Non, oui, tout à fait, oui. Il y avait ce qu'elle montrait devant les autres et comment elle se comportait quand elle était seule avec moi. C'est un peu comme si c'était deux personnes, en fait. Ben, du coup, il y avait ce truc de... J'essayais toujours de la rendre fière. Et comme j'étais très bonne élève, c'est vrai qu'elle se vantait beaucoup de mes bonnes notes. Enfin, je sais pas si je l'ai fait consciemment ou pas, mais j'ai toujours été très bonne élève. Mais j'ai jamais été la première. J'ai toujours été la deuxième. C'est peut-être aussi pour contredire ma mère, j'en sais rien, ou pour
Pour la
l'embêter,
rendre
quoi.
heureuse, mais pas trop.
Ouais, il y a un peu un truc comme ça. Mais donc voilà. Et puis il y a aussi eu quelque chose par rapport aux amis. On n'a jamais pu. Enfin, en fait, on était encouragés à inviter des amis à la maison, mais en même temps, quand ils venaient, ça se passait toujours mal. Donc, double discours, en fait. C'est vraiment oui ben quand tu veux il y a aucun souci en plus c'est ton anniversaire et puis ben fête d'anniversaire ben, ça se passait mal quoi et il y avait toujours quelque chose qui allait pas ou alors ma maman elle faisait ma mère elle faisait la tête ou enfin en tout cas il y avait quelque chose dans l'ambiance qui allait pas avec la fête quoi.
Tu penses que c'était pour te faire payer cette bonne humeur, pour pas que tu sois trop heureuse?
Je sais pas parce que elle avait plutôt tendance à me valoriser quand on était avec d'autres. Et là, justement, elle me valorisait pas. Et moi, j'essayais quand même de la rendre fière de moi, mais ça marchait pas. Il y avait comme ça toujours un espèce de décalage. Et en fait, ça menait au fait que finalement, j'ai des amis, mais que au lycée ou qu'à l'école et en dehors, ben finalement je suis jamais invitée, des choses comme ça.
Tu t'es sentie seule.
Oui, j'ai toujours eu ce truc de solitude encore aujourd'hui.
Est-ce que tu appréhendes la remontée de nouveaux souvenirs?
Ouais, parce que vu ce que c'était la dernière fois, je me dis que le prochain, il est vraiment, vraiment, vraiment dur. Après, j'appréhende, mais quelque part, je sais un peu comment ça peut se passer, quoi. Je vais pas totalement en territoire inconnu.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important aussi à souligner. Passer le choc de la première vague, je dirais. Après, évidemment que c'est
Oui,
difficile,
c'est quand même
mais
difficile.
on sait ce qui va arriver, quoi. On le sait.
Ouais. Après, maintenant, j'ai un suivi psy et donc forcément, je saurais, enfin, je me tournerai vers ma psy, je me poserai même pas de questions. Ce qui était très dur la première fois quand c'est arrivé, c'est que j'ai dû chercher de l'aide alors que j'étais dans un état catastrophique. Et il faut le dire, hein, nos psychologues, ils sont pas tous bienveillants. Hein.
Non.
Vraiment, vraiment pas. Hein. Et donc,
T'as eu de mauvaises expériences?
ouais. Oui, vraiment, j'ai eu des gens, leur première réaction, mais il faut porter plainte. Pardon. Excusez-moi,
Non mais
c'est...
madame, monsieur, on n'en est pas là encore.
Pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Ouais. Le
Oui.
nombre de fois où on m'a sorti cette phrase aussi au tout début de ma sortie d'amnésie, je me souviens d'un ami collègue de travail qui m'a dit « Mais Pete, Sanara, faut aller en justice tout de suite. » Alors que moi, j'étais encore en train de crever dans mon corps. Non, je suis pas en état là tout de suite d'aller parler de quoi que ce soit. Comme tu dis, en plus, c'est le brouillard, c'est insupportable, c'est l'enfer. Enfin, non,
Oui, c'est
non.
vraiment hyper,
Chaque
hyper
chose en
dur.
son
Ouais,
temps.
c'est vraiment hyper, hyper dur. Et là,
Mais oui.
enfin, c'est même pas. Oh, mais ça a dû être dur pour toi. C'est vraiment, il faut porter plainte. C'est premier mot. J'ai trouvé ça hyper violent. Après, il y a d'autres réactions en mode oh, je suis vraiment désolée pour vous. Ça a dû être très dur, mais pas dans l'empathique, mais dans le pathos, quoi. Mais ouais, non, franchement, faut le dire, c'est un parcours du combattant pour trouver quelqu'un qui peut écouter, mais pas juste écouter et aussi apporter de l'aide. Il y a une phrase qui me revient par rapport à l'emprise. C'est une phrase de Benoît Groult qui dit: ça dure toute la vie une évasion et c'est tout le temps à refaire. Et je trouve que cette phrase, elle est très belle et elle résonne beaucoup pour moi.
Moi, je suis absolument convaincue qu'on peut se libérer entièrement de l'emprise.
J'espère en tout cas.
Moi, j'en suis convaincue parce que je l'ai vécu. C'est pour ça que je pose les mots. Donc, je sais que c'est vrai. Non, c'est pas toute ta vie, Nino. Je peux te certifier, c'est pas toute ta vie. Surtout que tu as trouvé ta perle rare pour t'accompagner. Est-ce qu'on se lirait pas la petite définition d'emprise?
Ah, pourquoi pas?
Domination intellectuelle ou morale, mainmise de l'administration sur une propriété privée.
Oh,
Ça, c'est
c'est
intéressant.
très intéressant.
Ouais, mainmise de l'administration sur une propriété privée. Très, très intéressant. Et domination intellectuelle ou morale. C'est fou quand même, hein.
Mais oui, mais quand tu dis propriété privée, enfin c'est impressionnant, mais moi pour récupérer l'accès à mes comptes bancaires, mais ça a été oh, une bataille. Vraiment, vraiment, vraiment.
Ta mère qui avait tous les codes.
Non, elle n'avait pas tous les codes, parce que comme enfin, j'étais majeure à ce moment-là, on ne peut pas interdire à quelqu'un, mais comme enfin, ils avaient procuration, ben, du coup, tu vois, c'est compliqué. Mais ça, la mutuelle, enfin, vraiment des trucs basiques. Ça a été une bataille.
C'était quoi le truc? Elle voulait pas te redonner accès à tes papiers administratifs?
Ouais, c'est ça. Et puis, ben, elle voulait pas que je change de mutuelle. Après, je pense que c'est ce qui la dérangeait, c'était pas que je change de mutuelle ou de banque ou ce qui la dérangeait, je pense, c'est qu'elle ait plus accès à voir ce que je faisais.
C'est ça.
Je pense que c'est vraiment ça.
Comment ça se passait à la maison d'un point de vue les douches, la nudité, etc. Est-ce que vous étiez une famille pudique? Je parle vraiment de vous, toi, ta sœur et tes parents à la maison.
Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi j'ai toujours eu un problème avec le fait d'être pudique. C'est-à-dire que petite, je savais, enfin, ouais, je pense que je savais pas qu'on avait le droit d'être seule dans la salle de bain et que personne vient de nous déranger. C'est-à-dire que j'allais constamment déranger mon père quand il était dans la salle de bain. Parce que je pense que j'avais pas cette notion-là de bon, bah, j'attends qu'il ait fini, quoi. Et de même que il est arrivé plein de fois, ouais, couramment, que ma mère rentre dans la salle de bain quand je prenais ma douche, par exemple, pour récupérer. Enfin, souvent, il y avait toujours une excuse, le panier à linge sale, les chaussures de sport, enfin, n'importe quoi. Mais elle rentrait.
Toi, tu le vivais mal à l'époque?
Ou.
C'était ta
Bah,
normalité?
c'était ma normalité, mais en même temps, ce qui me dérangeait à ce moment-là, c'est que j'étais dans l'adolescence, la puberté, donc j'avais ce rapport à mon corps qui était difficile. Et donc, je pense que c'était plus ça qui me gênait, que j'étais pas, que j'aimais pas vraiment mon corps. Et du coup, le fait d'être vue en plus, je pense que c'est ça qui me posait problème.
Et ta vie amoureuse? Le début de ta vie amoureuse consentie.
Oh, elle est magnifique cette histoire. Ma première copine, moi j'avais 16 ans, on était dans une relation enfin, cachée, je n'avais pas du tout dit à mes parents que j'avais une petite copine et tout. Mais par contre, au lycée, on s'assumait et en fait, c'était génial, quoi. Et je me souviens que même ça avait fait le tour de la salle des profs, enfin ça avait fait le tour du lycée, quoi, qu'il y avait deux nanas ensemble. Et on était devenus un peu un espèce de modèle. Et je sais qu'après, il y a d'autres couples homo qui se sont assumés grâce à nous. Et moi, j'étais,
Oh, c'est
c'est trop
chouette.
bien. Ouais,
Ouais. C'est grâce à nous.
c'est ça. Et c'est vraiment une belle histoire d'amour qu'on a vécue toutes les deux. Bon, ça s'est arrêté là, enfin, c'est les premiers amours, quoi. Mais j'en garde un très, très bon souvenir.
Oh, c'est super chouette. Ça, c'est hyper important. Ça, tu vois, c'est aussi bon signe pour la suite.
Oui.
Eh oui. Et ta première relation amoureuse avec un garçon?
Moi, c'est avec mon copain actuel. Enfin,
Donc très patient
oui,
et
très
merveilleux.
doux. Ouais, vraiment quelqu'un de très doux.
Et c'est-à-dire qu'avant ton amoureux actuel, finalement, tu n'as eu que des relations avec des femmes.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites déposer, Ninon?
J'ai envie de dire que ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus fort. C'est pas vrai. On entend souvent dire ça pour des personnes qui ont vécu des choses très dures. C'est pas vrai. Ça nous rend pas plus fort. Ça nous brise. Après, on peut recoller les morceaux, mais c'est moins solide. Et voilà. Enfin, ne dites pas à quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible, oh, c'est vraiment incroyable. Tu vas devenir plus fort. Non, c'est pas vrai.
Non, néanmoins, laisse-moi te dire tout de même, hein, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Moi, cette phrase, ce qui te tue pas te rend plus fort, oui, ça te rend surtout complètement traumatisé et
Oui.
avec un merveilleux syndrome de stress post-traumatique, merci. Mais en fait, il y a quelque chose chez les survivants, je trouve ça même quasiment poétique et je me comprends totalement là-dedans, c'est que quelque part, on est aussi solide qu'on est fragile.
Oui.
Il y a une espèce d'ambivalence comme ça où vraiment on peut être, mais d'une solidité incroyable, comme on peut absolument être d'une fragilité hors norme.
Oui, c'est vrai. Le stress au travail, ça peut nous rendre, mais extrêmement performant, même vachement plus que
Ah
quelqu'un
ouais.
qui a pas vécu de choses terribles, mais après, en fait, impacté par un truc même minuscule, c'est n'importe quoi. Un collègue qui dépose des biscuits, enfin, ça peut vraiment nous ruiner la journée, quoi, et qu'on soit pas bien pendant une semaine. Mais ouais, il y a cette espèce
Alors
de
ça aussi,
truc
c'est très
bizarre.
typique, mais ça, tu vois, c'est aussi le cerveau qui est habitué au shoot d'adrénaline, etc. C'est le fait de réussir à rester calme dans des situations apocalyptiques où tout le monde est en panique, mais alors toi, tu restes d'un calme olympien. En revanche, sur des petits détails, effectivement, ça peut être la crise d'hystérie, tu sais,
Mais oui,
c'est
mais
vrai.
limite, c'est toi qui chapeautes le truc alors que normalement, c'est pas du tout ton rôle. Mais vraiment, genre, tu gères le truc de bout en bout et ça se passe nickel. Mais ouais, les biscuits, pas y compter.
C'est quoi cette histoire de biscuit? Raconte-nous. Ça va te faire du bien.
Bah,
Raconte-nous.
en gros, ma mémé, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui est décédée maintenant. Elle avait toujours des biscuits de l'acre, c'est ça, c'est des biscuits de l'acre. Et du coup, quand on allait la voir, il y avait toujours des biscuits. Et l'autre jour, il y a un représentant qui est passé au boulot. Il a déposé les biscuits pour tout le monde. Et j'ai mangé un biscuit et oh là là, ça allait plus. Bah
Oh.
ouais, bah, du coup, j'ai passé une
Parce
journée
que
de merde.
c'était les mêmes que chez ta mamie.
Oui, c'était les mêmes. Du coup, pas.
Mais cette fragilité aussi évolue avec le temps. Mais ça, je pense que finalement, c'est juste l'âge et que tous les êtres humains passent par ce processus-là. C'est comme il y a des choses qui nous touchent aujourd'hui qui ne nous toucheront plus demain. Il y a des choses qui te touchaient hier qui ne te touchent plus aujourd'hui. Et ça vaut aussi dans ce processus-là. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais te dire. Et puis, il ne faut pas oublier le processus d'acceptation.
Ouais.
Ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, ça y est, tu as accepté l'entièreté de ce qui t'est arrivé parce que de toute manière, tu ne peux pas le changer, pour le coup, ça change beaucoup dans ton quotidien. Beaucoup de choses.
Ah
Ouais.
oui, moi pour l'instant, non, j'arrive pas.
Encore une fois, c'est normal, tout ça prend du temps. En plus, il y a des éléments qu'on va réussir à accepter beaucoup plus facilement que d'autres éléments.
Oui, c'est pas
Et en plus,
toujours ce
quelque
qu'on.
chose qui va être... Non, quelque chose qui va être facile pour moi va être hautement difficile pour toi. Quelque chose qui va être assez facile pour toi va être hautement difficile pour moi. En plus, sur ce plan-là aussi, on est absolument tous différents. Donc, chacun a son rythme. Le rythme parfait n'existe pas. Ça n'existe pas. Et surtout, garder à l'esprit que c'est un marathon. C'est un marathon. On n'est pas sur une course de rapidité, pas du tout. Ça prend vraiment du temps. Ninon, tu m'as dit lors de notre premier entretien qui a échoué, tu m'as dit que tu ne te sentais pas légitime à parler, encore aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Mais pourquoi?
Ben, il y a cette question de la légitimité à prendre la parole, parce que déjà, je n'ai pas pris la parole dans mon cercle familial. Du coup, c'est entre guillemets. Enfin, oui, c'est difficile pour moi de porter cette parole-là, de dire j'ai été victime d'inceste, de le dire publiquement à des personnes que je ne connais pas, alors que j'en ai pas parlé dans mon cercle agresseur, quoi. Et il y a aussi le fait que comme j'en ai pas parlé et que j'ai pas confronté mes agresseurs, c'est un peu comme si pour moi, c'est pas encore totalement, comment dire, validé. C'est un peu comme si, je vais pas réussir à trouver les mots justes, mais...
C'est comme si ce n'était pas encore réellement réel,
Ouais.
comme si ce n'était pas
Oui,
réel.
c'est ça. Comme si c'était pas réel. Enfin, j'ai toujours, moi, le doute que ce soit vraiment arrivé, en fait. Mais il y a aussi le fait d'avoir leur validation, entre guillemets. Mais pourtant, je sais que c'est pas à eux de me donner la validation sur ce que j'ai vécu ou pas. Enfin, je veux dire, intellectuellement, je le sais, mais je l'ai pas intégré en moi, quoi. Il y a ça, et puis... Ben, dire aussi qui je suis pour venir et dire et porter la parole sur un sujet aussi grave, quoi. Vraiment le sentiment d'imposteur.
Tu sais, malheureusement, il y a quand même de très grandes chances pour que, au moment où tu parles, on te dise que c'est pas vrai, que t'as mal compris, que t'interprètes mal.
Oui.
Il y a de grandes chances. C'est excessivement rare ceux qui assument, celles et ceux qui assument. Et ensuite, sur le second point, il m'a été très difficile de trouver une victime d'inceste maternel. Et tu vois, même j'essaie vraiment de prendre soin de toi, de faire attention, de pas être trop intrusive. C'est pas facile aussi pour moi comme posture, parce que je sais à quel point c'est compliqué, à quel point c'est difficile. Franchement, c'est très compliqué de réussir à faire parler sur Lumineuse quelqu'un qui a vécu tout comme toi cette horreur-là. Moi, j'en connais plein,
Oui.
plein des êtres humains qui ont vécu l'inceste maternel. Et attention, parce que je me doute bien qu'ils vont écouter ces mots. C'est pas un reproche, ce que je suis en train de déposer là, pas du tout. C'est juste un constat. C'est difficile. Et pourtant, ce serait tellement important que vous preniez la parole, parce que il est peut-être temps aussi d'ouvrir les yeux sur le fait que les mères, il y a des mères qui violent leurs enfants, qu'il y a des nourrices qui violent les enfants qu'elles gardent, qu'il y a des amis de la famille qui violent les enfants, des femmes violent, les femmes violent.
Oui, c'est important
Voilà.
de le dire parce que,
Et donc c'est quand
ouais.
même important, purée de pommes de terre. Mais d'ailleurs c'est comme ça que toi et moi nous nous sommes... Non, est-ce qu'on s'était parlé avant?
C'est possible que, bah, ça m'arrive des fois de réagir sur des publications ou des stories, donc c'est
Ouais.
possible, mais je crois que c'est vraiment, bah, suite
Mais
à ta
j'avais fait
story que j'avais
une...
réagi.
Ouais, j'avais fait une story vraiment... En plus ça m'arrive jamais de me mettre dans des états émotionnels tels que ceux-là en public, quoi. Enfin vraiment pour le coup ça m'arrive jamais. Sauf là on va dire que ça va être l'exception qui confirme la règle. J'avais parlé de ça, de l'inceste féminin. Et puis, je m'étais mangé une rafale de folle hystérique par message en me disant que oui, statistiquement, les hommes violent plus, mais à quel moment c'est la question ici et maintenant, en fait. Pardon, mais c'est terrible.
Oui,
C'est
mais on ne remet pas
terrible.
en question les chiffres. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Statistiquement, c'est vrai. Mais il faut le dire. Enfin, moi, enfin, je suis allée à des cercles de parole et j'en ai rencontré des hommes, des femmes qui ont été violées par des sœurs, des grands-mères, des mères aussi. Enfin, j'en ai rencontré. Donc, en fait, ça existe. Vraiment, ça
Et
existe.
en fait, c'est ça. Et ce qui est terrible, c'est que ça invisibilise la parole de ces survivants-là. Et moi, c'est ça qui m'insupporte.
Oui.
Ça m'insupporte. On a le droit de s'exprimer sur ces sujets, aussi difficiles soient-ils. Mais de toute manière, dès qu'on touche à la femme, c'est compliqué. Mais la femme n'est pas parfaite. Non.
Non, c'est difficile parce que on a cette image des femmes qu'elles sont douces, qu'elles prennent soin, mais
Que c'est inné pour une femme d'avoir l'instinct maternel et de bien s'occuper des enfants. Mais dans quel monde
non,
vivez-vous,
ça
hein?
n'existe pas.
Putain. Bien sûr que ça n'existe pas. C'est pour ça que j'étais terriblement heureuse que tu acceptes parce que par la suite, donc pour peut-être expliquer un peu aux auditeurs, Je t'ai proposé, comme à plein d'autres, dans ta situation, hein, de venir t'exprimer sur Lumineuse et tu m'as répondu, je vais y réfléchir. Et plusieurs mois plus tard, tu es revenu vers moi en me disant, Sanara, je suis prête. Et je me suis sentie honorée que tu me fasses confiance pour cela, mais sincèrement, vraiment, et très heureuse parce que ça va aussi porter la parole de celles et ceux qui ont vécu un inceste féminin, un inceste maternel et qui n'osent pas prendre la parole. Voilà. Donc je suis ravie, bien que évidemment, tout ce que tu nous déposes là est terrible. Je veux dire, évidemment, mais c'est important d'en parler.
Oui, bah oui, c'est très important parce que, enfin, moi, quand j'ai cherché de la documentation, de la ressource, enfin, des études, ou vraiment, j'ai cherché de la documentation, des reportages, et en fait, tout ce que j'ai trouvé, c'est des vieux reportages déjà. Il y en avait, mais il y en avait très peu. Et puis, bah, j'ai quand même trouvé de la documentation sur l'inceste parce qu'avec le mouvement MeToo Inceste, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. C'est vrai. Et même beaucoup des livres qui sont parus, j'ai beaucoup lu. Du coup, ça m'a aidé, quoi. Mais j'ai jamais trouvé de podcast ou de livre qui parle d'un inceste commis par une femme. J'en ai pas trouvé. Et c'est vrai que ça. Bah, j'ai trouvé cette parole-là dans les groupes de parole, justement, mais c'est des gens qui n'ont en général pas parlé dans leur cercle familial. Parce que c'est vrai que c'est quand même très, très dur.
Ça l'est. C'est très très dur de prendre la parole. De toute manière, peu importe qui était le bourreau, c'est très dur de prendre la parole. Mais il y a quelque chose, dès que ça touche à la mère, c'est un peu, ben c'est sacrilège, quoi. On ne peut pas, on peut pas l'entendre, on peut pas le voir, on ne peut pas. Il y a comme un espèce de blocage, il y a un mur là, même émotionnel.
Ouais, on peut même pas y penser, en fait.
C'est pour ça même que tu vois, tu dis. Et j'entends, et au début, avec certaines personnes qui étaient venues me parler en message, il y en a avec qui j'ai juste discuté, je ne me suis pas enflammée tout de suite, hein. J'ai pété un plomb au bout de je ne sais combien de messages, hein. C'était pas, c'est le cumul qui m'a fait disjoncter, quoi. Mais des vraies statistiques, on n'en a pas, de toute manière, puisque les gens ne parlent
Mais c'est
pas.
ça.
Donc même qu'on me dise, oui, mais statistiquement, de quoi? Parce que rien que dans mon entourage très très proche, moi j'ai une amie d'enfance qui a été violée toute son enfance par sa sœur. Mais oui, mais moi j'en connais directement, même sans parler de celles et ceux qui sont venus se confier à moi, qui m'ont donné leur confiance au travers de Lumineuse, etc. Mais même dans mon entourage direct, j'en connais. Ça fout les boules, hein.
Oui.
Alors oui, très souvent, ces femmes qui font ça, ou elles-mêmes subissent des agressions.
Oui. Mais quand on regarde une famille, quelqu'un qui inceste quelqu'un d'autre, lui aussi a dans sa famille, alors je dis pas qu'il a forcément subi des choses, parce que c'est pas parce qu'on a subi qu'on va reproduire, c'est pas vrai ça aussi, faut le dire. Mais bah, c'est pas à 100% vrai à chaque fois. Mais c'est vrai que ces femmes, elles ont été confrontées à l'inceste, c'est sûr.
Oui, bah en tout cas de celles que moi je connais directement, oui. Et de toute manière, même après, hein, lorsque tu creuses, tu découvres de sordides histoires. Tu sais, pour revenir à ce que tu disais là, c'est le fait que tous les survivants ne deviennent pas bourreaux. Mon Dieu, heureusement, on en est la preuve vivante. Néanmoins, la quasi-totalité des bourreaux ont été des victimes. C'est ce truc de
Oui.
toutes les victimes ne deviennent pas des bourreaux, mais ceux qui deviennent bourreaux ont été victimes.
Oui, après, pas forcément
Sauf le
tous, mais
pourcentage minime de psychopathes,
oui, voilà.
la très grande majorité.
Oui.
Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose d'autre, Ninon?
Non, je pense que
Tu as transmis les éléments essentiels que tu souhaitais nous
oui.
partager. Moi, je te dirais juste que tu es entièrement légitime de prendre la parole aujourd'hui, que tu seras absolument légitime de prendre la parole devant ta famille le moment venu. Il faut absolument que tu te fasses confiance. C'est toi la victime dans tout ça. C'est toi.
Merci pour tes mots, Samara.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là?
Des bonnes nuits de sommeil.
On te souhaite des bonnes nuits de sommeil. Moi, je te souhaite de continuer à avancer sur ton chemin. Je te trouve extrêmement courageuse, très sincèrement. Je te remercie du fond du cœur d'être venue déposer ta parole sur Lumineuse. Et je te souhaite d'avoir une vie à la hauteur de ce que tu mérites et remplie de bonheur, de magnifiques rencontres et d'expériences incroyables, Ninon.
Merci beaucoup. Ça me touche.
Tu reviendras peut-être dans quelques temps, dans quelques années sur Lumineuse pour nous raconter ton parcours
Oui, pourquoi pas?
et la femme incroyable que tu seras à ce moment-là. Ouais.
Wow.
Merci pour tout, Ninon.
Ben, merci à toi. Je voulais juste te remercier pour ta bienveillance et ton écoute.
Ah,
Tu es
avec
quelqu'un
plaisir. C'est moi qui te
d'extraordinaire. Oui.
remercie. Oh, t'es gentil. Merci. Merci beaucoup. Je t'embrasse, Ninon. À
À
bientôt.
bientôt.
Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si toi aussi tu souhaites venir livrer ton témoignage sur Lumineuse Podcast, sache que tu es le ou la bienvenue. Il te suffit de me contacter sur Instagram, sur Lumineuse Podcast. Tu pourras retrouver le lien dans la barre de description de l'épisode. N'hésite surtout pas. Partager sa parole, au-delà du fait de quelque part se libérer, eh bien, de l'omerta qu'est l'inceste, cela permet également d'apporter de l'aide à celles et ceux survivants, tout comme toi, qui viennent écouter sur Lumineuse Podcast des témoignages qui les aident, qui leur donnent de la force et également qui leur donnent de l'espoir sur, eh bien, l'avenir. L'avenir qu'il est absolument possible d'atteindre lorsque nous avons vécu ce type d'abomination. Je nous souhaite à tous courage et persévérance dans ce combat. Et comme toujours, prenez grand soin de vous.